Bonsoir mes frères et sœurs. On va lire des textes ce soir. Alors c'est un sujet qui me préoccupe depuis des mois. Enfin, pas depuis des mois, en vérité depuis ma conversion. Pourquoi ? Parce que dans bien des assemblées, dans bien des églises, dans le corps de Christ, toutes dénominations confondues, il y a un vrai problème de perception de la piété, des choses spirituelles. Par exemple, alors dans Philippiens au chapitre 2, on va lire dans les Proverbes, Philippiens chapitre 2, alors, c'est un sujet presque inépuisable. Vous prenez une concordance et vous le vérifierez. Dans Philippiens au chapitre 2, l'apôtre Paul écrit donc à ses frères et sœurs et il leur demande quelque chose. Nous allons partir sur ce verset parce que je trouve que c'est bien. J'avais que l'embarras du choix. Il y a des sujets comme la consécration, par exemple. Il n'y a que deux textes dans la Bible, un dans l'Ancien et un dans le Nouveau Testament. Je parle de la vraie consécration qui en parle. Tandis que le sujet de la crainte de l'Éternel, il est rappelé en boucle du début à la fin. Donc Philippiens chapitre 2, verset 12. J'ai mes lunettes. Philippiens chapitre 2, verset 12. En plus, j'ai pris une Bible plus grosse, donc je suis complètement perdu, parce que je n'y vois rien quand même. Alors, est-ce que quelqu'un peut me lire Philippiens chapitre 2, verset 12.
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent.
Proverbe chapitre 2, versets 1 à 5.
Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu conserves avec toi mes commandements, en prêtant l'oreille à la sagesse, en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la prudence, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu.
Alors, vous avez lu avec moi les mots qui sont utilisés dans ce texte de Proverbes chapitre 2, les verbes qui sont utilisés, si tu reçois, si tu conserves, hein, si tu inclines ton cœur, si tu appelles la prudence, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches soigneusement comme un trésor, alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. Proverbe chapitre 1er, il est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voilà, verset 7. Proverbe chapitre 1er, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous rappelez l'exemple que j'ai pris dimanche pendant le culte par rapport à Abraham lorsque Dieu l'a éprouvé? Il lui a demandé de faire quelque chose de terrible, de terrible. Il l'a fait de suite. Il est parti, il a marché pendant 3 jours. Et croyez-moi, pendant les 3 jours où il a marché, il avait le temps de revenir sur sa décision. Dieu nous éprouve, il peut nous demander quelque chose, on peut obéir, et puis 2 jours après dire, mais attends quand même, non, non, non. Vous voyez, lui, il était déterminé. Il va faire ce que Dieu lui demande, et au moment où il va faire cette chose terrible, le Seigneur intervient et il va lui dire, je sais maintenant que tu crains Dieu. Dans toute la parole de Dieu, nous voyons que la crainte de l'Éternel, le respect, quand j'utiliserai la crainte, chaque fois, ce n'est pas la peur, c'est l'inverse. C'est un respect profond des choses de Dieu, c'est lié à l'obéissance. Et ce qui détermine la bénédiction dans une église, c'est cette obéissance. Je vous donne un exemple. J'ai souvent vu, moi, des gens qui vivaient dans le péché. Je leur dis, mais pourquoi vous ne mettez pas votre vie en règle? 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, rien n'avait changé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Le respect, la crainte de l'Éternel est la base de la communion avec Dieu. On l'a lu dans le Proverbe 2 et dans le Proverbe 1. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à retenir. Ça s'apprend, ça s'apprend, ça, tout s'apprend. Dans le royaume de Dieu, c'est rare les choses qui sont innées. On les apprend, on les découvre en lisant la parole de Dieu. Retenir ses commandements. Alors c'est un sujet, moi je vous avoue que je ne savais pas par quel bout commencer, tellement c'est un sujet extrêmement compliqué. Le contraire de la crainte de Dieu, c'est l'illusion. C'est l'évangile, moi j'appelle ça l'évangile de l'illusion. Le mieux c'est de comprendre Apocalypse chapitre 3, quand Jésus s'adresse à l'église de Laodicée, cette église qui fait des œuvres. C'est bien de faire des œuvres. Est-ce que c'est bien de faire des œuvres? Est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien. Et il faut que chacun arrive à faire ce que Dieu lui demande, même si c'est qu'une chose. Même qu'une chose.
Par exemple, Dieu peut demander à une chrétienne ou un chrétien de visiter une mamie tous les mois. C'est ça que Dieu lui demande. Est-ce que c'est possible, ça?
Oui.
C'est la seule chose, c'est comme ça. Il y a des gens, ils font des visites à trous de bras, Dieu ne leur a jamais demandé. Et ainsi de suite. Il faut savoir ce que Dieu demande. Si nous ne sommes pas dans la crainte, nous ne pouvons pas découvrir la pensée de Dieu. C'est ce que je veux vous expliquer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui rendent un témoignage minable, des chrétiens qui se demandent s'ils sont convertis, parce qu'en vérité, vous allez comprendre, c'est tout à fait simple. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Le contraire donc de la crainte, c'est l'illusion. Alors, c'est bien expliqué dans Jacques au chapitre 1er. C'est bien de le lire quand même. Jacques chapitre 1er, verset 22. Vous connaissez tous ce texte. Jacques chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même par de faux raisonnements. Voyez, après il explique qu'on peut écouter, ne pas mettre en pratique. Dans des versions, c'est peut-être que vous avez ne vous trompez pas vous-même, non? Ou alors ne vous illusionnez pas, ne vous séduisez pas vous-même. Comme ces chrétiens, je le répète, de la Odyssée, ils croyaient que c'est terrible, parce qu'un jour on va passer devant Dieu. Vous le savez qu'on va passer devant Dieu. C'est quelque chose d'archi important. Et il ne faut pas que Dieu nous dise, mais toute ta vie tu t'es séduit, tu t'es trompé par de faux raisonnements. Tu chantais des cantiques, mais ce n'est pas vrai ce que tu chantais. C'était complètement faux. Vous avez envie d'entendre ça? Non. Et pourtant, ça revient souvent, comme dans l'église de la Odyssée. Tu crois que tu es riche et tu ne sais pas que tu es pauvre. Bon, c'est terrible, ça. C'est quelque chose de terrible. Que Dieu nous le dise sur la terre, ça va. Mais si on l'apprend le jour où on va passer devant Dieu, c'est quelque chose de dommage. Parce qu'en plus, toute notre vie, Dieu nous aura interpellés d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, c'est un piège. Je crois que je suis dans le vrai. Et en vérité, je suis dans un véritable mensonge. Et sans la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre ces choses. C'est pour ça que tant de chrétiens sont en vrac et tant de chrétiens sont des pierres d'achoppement. Vous n'avez pas envie d'être un bon témoignage pour le Seigneur? Franchement, sur la terre, je ne sais pas le temps qu'il nous reste à vivre, mais qu'on puisse dire, je ne sais pas, ce n'est pas grave la connaissance, mais au moins ça c'est un vrai chrétien. Vous n'avez pas envie? Moi je l'ai entendu ça. Moi je n'étais pas d'accord avec lui, hein, mais c'était un vrai chrétien. C'est beau ça, quand on entend ce genre de thème. Ah, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Ah bon? C'est drôle, il est exactement comme les gens du monde. Vous l'avez jamais entendu ça? Combien c'est intéressant pour l'œuvre de Dieu. Hein. Sans la crainte, nous ne connaissons pas Dieu. Vous l'avez lu avec moi dans le Proverbe au chapitre 2, et on va voir d'autres textes si cela se présente. Nous nous faisons une image de Dieu. Vous allez voir que c'est possible. Nous l'honorons des lèvres, comme dit Jésus, dans Matthieu chapitre 15, on va le lire parce que je me rends compte de plus en plus que les chrétiennes ne lisent pas la Bible. Enfin, je ne sais pas si vous en faites partie. Vous faites partie de cette catégorie-là? Non? Vous lisez votre Bible? Tous les jours? Une fois par mois? Je me rappelle une fois, j'avais été voir un frère qui avait perdu ses lunettes. Il était malheureux parce qu'il avait perdu ses lunettes depuis des mois. Et puis je lui dis, bon, avant de partir, on va lire la Bible, allez chercher votre Bible, on va lire un texte. Ah, oh, monsieur Gaud, j'ai retrouvé mes lunettes. Ouais. Vous avez compris? Ça ne m'a pas fait rire. Moi. Ouais. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 7. Donc Dieu s'adresse à des pharisiens, c'est-à-dire à des pasteurs. Faut pas rêver. Hein. Et il dit, voyez, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé de vous lorsqu'il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, enseignant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Mais si vous regardez le texte que Jésus cite, il est d'Ésaïe 29. Alors on va lire dans Ésaïe 29. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de lectures, mais le but de ces études, c'est que vous preniez des notes et que chez vous, vous méditiez, parce que ça ne sert à rien si vous écoutez juste et que vous oubliez. Le but, c'est de prendre ces notes et de les méditer, comme moi je le fais pour mes prédications. Ésaïe 29, Jésus citait souvent des textes, bien sûr, c'est lui qui a inspiré la Bible, il la connaissait, mais enfin, il a dû l'apprendre quand même, en tant que fils de l'homme, puisqu'il était un homme comme vous et moi. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur a dit, « Puisque ce peuple ne s'approche de moi qu'avec la bouche, puisqu'il ne m'honore que des lèvres, tandis que son cœur se tient éloigné de moi. » Regardez bien, puisque la crainte qu'il a pour moi n'est qu'une leçon que les hommes lui ont apprise. Ce n'est pas tout à fait comme ça, mais j'ai une autre version, d'accord, hein? Puisque son cœur se tient éloigné de moi, puisque la crainte qu'il n'a que, c'est comment dans votre version déjà? N'est que une tradition humaine. Il n'y a pas de crainte. Les gens s'approchent de Dieu, ils vont au temple, ils vont à l'église, mais en vérité, il n'y a pas cette crainte. Et le résultat, eh bien, c'est qu'il n'y a aucun fruit, et que le témoignage est déplorable. Vous voyez, ce peuple, le peuple allait à l'église, mais en vérité, il s'éloignait du Seigneur, il n'avait pas la crainte de Dieu. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin dans le livre de l'Exode. On va prendre des exemples concrets. J'aurais pu faire une immense introduction de plusieurs réunions pour indiquer ce sujet. Mais je voudrais maintenant que nous allions dans le vif du sujet. Exode chapitre 20, verset 20. Je répète, c'est important qu'on prenne des textes. Ce n'est pas la peine de faire une étude sophistiquée. Il faut prendre des textes, que vous regardiez exactement ce à quoi ça correspond dans votre vie après. Exode 20, verset 21. Exode 20, verset 21. Quand vous regardez tout le contexte, Dieu voulait que tout le monde s'approche de lui. Dieu les avait sortis du pays d'Égypte. Dieu voulait qu'ils apprennent à le connaître, à le craindre, à lui offrir un culte avant d'aller dans le pays de Canaan. Regardez bien. Alors, Exode 20, verset 20. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver et afin que sa crainte soit devant vous. Vous voyez, un des buts de tout ce qui s'est passé avant qu'il rentre dans le pays de Canaan, c'était qu'il développe la crainte de Dieu. Et tous, alors regardez bien la réaction. Il y a une invitation qui est faite à tout le monde. Le peuple, donc, se tint à distance et Moïse s'approcha de Dieu. Vous avez vu la différence? Dieu les invite tous. Le peuple, lui, s'éloigne. Et Moïse, lui, s'approche. Et c'est beaucoup comme ça aujourd'hui. Beaucoup de gens ont la même invitation, approchez-vous de Dieu et il s'approchera. Mais en vérité, les gens n'ont pas la crainte, donc à la place de s'approcher, ils s'éloignent du Seigneur. C'est quand même terrible. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Regardez dans Deutéronome chapitre 5, quand on met tous les versets ensemble, il y en a des centaines. Hein. Je ne sais pas jusqu'où on ira. Mais ça vaut quand même la peine de réfléchir pour que nous puissions nous poser la question, est-ce que j'ai, moi, la crainte de Dieu? Deutéronome chapitre 5, verset 29. Ça fait beaucoup de versets, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous n'allez pas me dire la sortant, on a lu trop de textes. Je pense que même si on faisait que lire la Bible, est-ce que ça serait un problème si on faisait que lire la Bible? Non. Au moins, ça serait tout inspiré, ça c'est sûr. Deutéronome chapitre 5, verset 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux. » Donc, c'est la preuve, notez bien ce verset, que pour garder les commandements de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir le respect profond des choses de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens n'ont aucune crainte, n'obéissent pas? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Je citais ce témoignage que plusieurs ont lu sur un livre dernièrement, un bon livre, où un pasteur a été visiter un autre pasteur. Ça s'est passé aux États-Unis il y a une, je ne sais pas combien, 20 ans, non? Je ne sais pas, ouais. C'est un pasteur célèbre qui a été emprisonné pour adultère et pour détournement de fonds. Donc un pasteur qui le connaissait a été le trouver en prison. Il va le trouver en prison, il lui dit, écoute, comment t'as fait pour te détourner de l'amour de Dieu? Et le pasteur, il lui répond, mais je ne me suis jamais détourné de l'amour de Dieu. Le problème, c'est que je n'ai jamais eu la crainte de Dieu. Vous avez compris la différence? Est-ce que vous me suivez? Et je trouve qu'il avait super bien répondu. Le problème, ce n'est pas l'amour de Dieu. Le problème, c'est la crainte de Dieu. Quand vous avez le respect, je peux vous dire que vous, excusez-moi l'expression, mais vous vous tenez à carreau. Et surtout, mais il faut le faire, bien sûr, avec cœur, naturellement. Donc, on le voit bien. Alors, regardez bien un autre texte. Alors, vous pourrez lire le contexte, c'est très, très, très intéressant. Dans Exode, au chapitre 19. Dans Exode, au chapitre 19. Exode 19, verset 24. 19, verset 24. Qu'est-ce que Dieu fait? On va lire le verset 23 et le verset 24. Regardez bien. Bien sûr que ça, c'est vous. Vous ne l'observerez pas de vous-même, mais c'est mon devoir en tant que pasteur de vous aider à le faire. Exode 19, verset, on va lire le verset 23. Et l'Éternel, verset 23, oui. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne peut monter sur le mont Sinaï, car tu nous l'as défendu en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » Et l'Éternel lui dit, « Va, descends, regardez bien, descends, puis tu monteras, toi et Aaron, avec toi. » Dont l'ordre de Dieu n'était pas compliqué. Dieu dit à Moïse, « Tu monteras sur la montagne, toi et Aaron. » Vous êtes d'accord? C'était le commandement du Seigneur. Pourquoi? Parce que le peuple s'est désisté. Donc Dieu dit, « Il y aura des médiateurs, toi et ton frère Aaron, vous serez les médiateurs, je vous parlerai. Et puis, à votre tour, vous parlerez au peuple. » C'était comme ça, c'était quand même bien, alors que tout le monde aurait pu être au bénéfice de cette communion. Mais quand vous continuez à lire le récit, ça vous le savez, qu'est-ce que vous voyez? Sur la montagne, qui c'est qu'il y a? Est-ce qu'il y a Moïse et Aaron? Non, qui c'est qui reste? Il reste que Moïse. Oui ou non? Aaron est redescendu, c'est vrai qu'il y avait longtemps que ça durait, ça faisait plus de 40 jours, et il commençait à s'impatienter. Pourquoi Aaron est redescendu? Alors que Dieu avait dit, tu monteras avec ton frère. Il est redescendu, pourquoi? Parce qu'il préférait se retrouver avec les gens qu'avec Dieu. Et ça, je pense que les pasteurs, on doit aimer se retrouver dans la présence de Dieu. La communion fraternelle, c'est un grand bienfait, un immense bienfait. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie, mais d'une façon, vraiment, c'est indescriptible, la communion fraternelle que j'ai ici avec les frères, avec les sœurs. Vraiment, comment je me sens aimé. Je vous assure, c'est un confort, ça, dans une église, quand on se sent aimé par les frères et par les sœurs. Mais c'est une bénédiction, la communion fraternelle. Mais il y a quelque chose de plus important dans le cœur des serviteurs de Dieu, c'est qu'ils doivent d'abord aimer la présence de Dieu. Et nous voyons Aaron, il est redescendu. Il est redescendu parce que il en avait marre d'attendre. Il faut le dire comme c'était. Dieu ne parlait pas, alors il est redescendu. Il est redescendu, il va préférer être avec le peuple. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui un leader. J'aime pas ce mot. Parce que j'aime pas qu'on introduise ce mot dans l'Église. Parce qu'il n'est pas biblique, premièrement. Il était un responsable. Ça, c'est plus sérieux. Et en fin de compte, il va finir par donner au peuple ce que le peuple attend, et non pas ce que Dieu voulait leur donner. Vous connaissez la suite. C'est des livres, vous savez, il y a des livres qui ne sont pas faciles. Je sais que, par exemple, le livre du Lévitique, ce n'est pas le livre que vous aimez le plus. Non? Oui? Mais le livre de l'Exode, c'est quand même un livre assez facile à comprendre. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, vous voyez ce qui s'est vraiment passé. C'est révélateur, le temps. Vous savez que Dieu nous éprouve au travers du temps. Est-ce que vous le savez? Souvent, il écrit « longtemps après, comme il tardait ». Il y en a des textes comme ça, « le temps ». Nous, on aimerait que ça se passe un peu plus vite. Regardez bien. Ce qui se passe quand un homme de Dieu ne sait pas se tenir devant Dieu. Exode 32, donc, il aurait dû être avec Moïse. Ça commence à s'impatienter. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit, « Qu'est-ce qu'il aurait dû leur répondre après vous ?»« Eh bien, attendons qu'il descende. Attendons. » Aaron leur répondit, « Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. » De vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Et tous enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils les apportèrent à Aaron, qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau et en fit un veau de fonte. Alors ils dirent, voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils appellent ce veau leur Dieu, puisqu'il dit, c'est lui qui t'a fait sortir. C'était Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aaron, voyant cela, bâtit un autel devant lui. Puis Aaron cria et dit, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices d'action de grâce, et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Ah, ça, c'est sûr que le divertissement, ça plaît. Ça, vous savez, on peut faire les parallèles avec les églises d'aujourd'hui, croyez-moi. Donc, Aaron n'est pas à sa place. Il va faire plaisir aux gens. Vous savez, quand c'est une tentation, ça, quand on est pasteur, de vouloir faire plaisir aux gens, de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, alors qu'on ne doit pas leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Les gens qui aiment Dieu, de toute façon, ils ont envie d'entendre la vérité. Si vous avez envie d'entendre que ce qui vous plaît, je vous plains, parce que votre conversion, elle est boiteuse et bancale, croyez-moi. Donc, il cède au peuple, de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Ou vous avez la crainte de Dieu, ou vous avez la crainte des hommes. C'est l'un ou l'autre. Vous pourrez lire le Nouveau Testament, vous allez voir les pharisiens, ils craignaient le peuple. Vous le verrez. Là, les textes, je les ai à l'esprit, mais je ne vais pas vous les lire. Et le peuple craignait les pharisiens. Vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, ils se craignaient l'un l'autre, mais il n'y avait pas la crainte de Dieu. Et Aaron, malgré le fait qu'il ait été choisi par Dieu, eh bien, il leur a fait plaisir. Et vous avez vu, ils ont réduit. Alors là, on arrive au vif du sujet. Ils ont réduit l'image de Dieu à un veau d'or. Comme quoi ils étaient encore imprégnés par l'idolâtrie de l'Égypte. Écoutez bien. Ils sont délivrés. Est-ce qu'ils étaient vraiment délivrés de l'Égypte? Oui, oui, ils étaient délivrés. Est-ce qu'ils étaient sortis d'Égypte? Oui, ils étaient sortis d'Égypte. C'était le peuple de l'Alliance, le peuple de Dieu. Mais, voyez, comme ils n'avaient pas la crainte, alors on l'a lu tout à l'heure, je vous ai amené dans le désert afin que vous ayez la crainte de Dieu. Eux, ils ne voulaient pas de ça. Eux, ils voulaient de suite l'Égypte, le pays de Canaan. Ça aurait dû durer, en vérité, 21 jours. Pour aller de l'Égypte, là où ils étaient, à Canaan, il faut 21 jours. Et ils ont mis quelques jours de plus. Vous vous rappelez? Hein? 40 ans. Comme quoi, la désobéissance, on le paye cher. On le paye cher, la désobéissance, et ça, on le sait. Donc, ils commencent, Aaron cède à leur sollicitation, ils veulent un Dieu à leur façon. C'est vrai que prier une idole, c'est quand même intéressant. Une idole en plâtre, c'est sûr qu'elle ne va pas vous contrarier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça arrange beaucoup, même si elle est en or, qu'elle soit en bois, en plâtre, en or. Le problème, c'est quand dans Isaïe, il est dit que ceux qui prient des idoles, ils ne sauveront pas leur âme. Ils ne peuvent pas rentrer en eux-mêmes. Ça va loin l'idolâtrie dans la parole de Dieu. Mais on voit que même le peuple de l'Alliance, dont pour nous les chrétiens, peuvent tomber dans ce piège. Ils sont délivrés de l'Égypte et ils tombent dans le piège de l'idolâtrie. Et ils appellent ce veau d'or Dieu qui les a délivrés du pays d'Égypte. Pour eux, c'est l'image du Dieu qui se fond, du Dieu d'Israël. Alors, est-ce qu'il est possible d'être délivré du monde, de passer par la croix, de passer par la nouvelle naissance, la repentance? Et de tomber dans le piège de l'idolâtrie. C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Eh bien oui, et bien sûr que oui. Combien d'églises, enfin on parle de chrétiens, combien de chrétiens ont accepté Jésus et n'ont aucune crainte de son nom? Je vous avais dit, j'exagère? On le voit au fruit. On le voit au fruit. Quand vous avez la crainte, vous vous appliquez à faire ce que Dieu demande. Et ça, c'est... Ce sujet, il est archi important parce qu'on va voir des textes. Vous allez voir, je voudrais que Dieu m'inspire pour que nous soyons soucieux, tous, de nous présenter un jour devant Dieu en ayant fait des progrès. Je ne sais pas où on en est tous, on n'est peut-être pas tous au même niveau, ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez fait les progrès que vous auriez aimé faire? Allez, dites-moi. Est-ce que vous êtes content de vous? Vous êtes content de vous? Ne soyez pas trop méchant quand même, envers vous-même. Faites attention quand même. Vous entendez? Soyez exigeant, mais ne devenez pas dur. Bien sûr que moi aussi, j'aimerais avoir fait davantage de progrès. J'espère que j'en ai fait en 18 ans. J'en ai fait quelques-uns? Oui? Non, merci. Est-ce que vous aspirez à faire des progrès? Eh oui, bien sûr qu'on n'a pas fait les progrès qu'on aurait pu faire, mais je peux vous dire que si nous développons cette vertu, parce que c'est une grande vertu, c'est le commencement de la sagesse, et vous avez vu que c'est de cette façon-là que l'on connaîtra vraiment Dieu. Laissez-moi vous dire que quand on parlera de Dieu, ça ne sera pas virtuel ou ça ne sera pas approximatif, ça sera vraiment la réalité. Donc on peut être sorti du monde, être rentré dans le royaume de Dieu, avoir accepté le Christ comme sauveur, comme Seigneur, réaliser qu'il s'est incarné en Jésus-Christ, etc. C'est des choses merveilleuses. Mais faire à sa façon. Ne pas faire sa volonté. accepter Jésus, mais faire sa propre volonté. Ce qui s'est passé quand ils sont sortis d'Égypte. Et il y en a beaucoup. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. On va prendre un autre exemple, parce qu'on va revenir, il y a plein d'exemples. Caïn, vous connaissez Caïn? Parce que Caïn, il était quand même dans une bonne famille, non? Est-ce que Caïn était dans une... Parce que ça aussi, je l'entends souvent, un peu trop souvent. Des prétextes, oui, mais moi j'avais un père alcoolo, moi, ma mère, elle n'était pas sympa. Écoutez-moi bien. Faisons attention, parce que ça, c'est un piège. Vous croyez que Dieu peut faire grâce à n'importe qui? Oui. Et faisons attention à ne pas nous enfermer dans une espèce de psychomaniaco machin et rester dans la défaite, quels que soient les parents que vous ayez eus. Moi, je trouve que Caïn, son père, c'était pas un alcoolique. Hein, son père, c'était quelqu'un de bien. Alors, Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez l'histoire de Caïn? Quand même, à un moment donné, il fallait qu'il nous fasse un sacrifice, qu'il offre un sacrifice à Dieu. C'est où ça? C'est Genèse? Genèse chapitre 4, non? Si je ne me trompe pas. J'ai changé de Bible pour qu'elle soit plus grosse, mais je me perds un peu. Alors, Caïn, il savait ce qu'il devait faire. Il savait très bien, croyez-moi. Il devait offrir un sacrifice à Dieu. Alors, verset 3 du chapitre 4. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, une oblation à l'Éternel. Et Abel, donc son frère, offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? » Donc, voyez, il savait qu'il devait offrir un sacrifice, mais il a fait à sa façon. Il savait très bien, d'après ce qui s'était passé, et d'ailleurs, si Dieu le lui reproche, c'est qu'il le savait, qu'il devrait offrir un sacrifice sanglant. Pourquoi ? Parce que pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, Dieu avait offert un sacrifice, une peau, pour les habiller. C'est l'image de la rédemption. Et Caïn, lui, il savait très bien, Caïn le savait, Caïn, Abel l'a fait. Et ça va loin cette affaire, parce que dans le Nouveau Testament, à deux reprises, il est dit « Malheur aux hommes qui ont suivi la voie de Caïn ». La voie de Caïn, pour ceux qui découvrent, c'est le salut par les œuvres. C'est ceux qui veulent être sauvés à leur guise. Le seul moyen d'être sauvé, ce n'est pas d'être catholique ou protestant ou évangélique. Le seul moyen d'être sauvé, c'est d'avoir accepté le sang de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas accepté le sang de Jésus-Christ, vous n'irez pas au paradis. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça m'est égal. Mais c'est comme ça. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. C'est écrit dans la Bible ou c'est pas écrit? C'est écrit. Donc, Caïn le sait, Dieu va vers lui, parce que le Seigneur, il vient toujours vers nous, même si on s'est trompé. Est-ce qu'on peut se tromper? Oui, volontairement, involontairement. Bon, quand c'est involontaire, c'est quand même mieux. Quand on agit par ignorance, c'est quand même... C'est pas grave. Paul dit, j'étais persécuteur, violent, méchant, etc. Mais j'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance. C'était un meurtrier, il respirait le meurtre, c'était quelqu'un de méchant. Mais il agissait par ignorance. Donc il a obtenu miséricorde. Donc Dieu s'intéresse à lui, à Caïn a désobéi, il savait très bien, donc, mais pourquoi il a désobéi? Mais parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Quand est-ce que les gens font à leur guise? Pourquoi les gens font à leur guise? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne le connaissent pas, en vérité. La preuve, c'est que quand Dieu vient lui demander « Où est ton frère ?» Dieu sait tout. Mais vous comprenez bien que quand Dieu pose une question, c'est dans le but de provoquer la communion. Quand Dieu va voir Adam dans le jardin d'Éden et qu'il dit « Où es-tu ?» Dieu savait très bien où était Adam. Mais il provoque la discussion. Béni soit Dieu pour toutes les fois où il provoque la communion, oui ou non? Mais oui, c'est une grande bénédiction. La preuve qu'il ne le connaît pas, qu'il n'a pas la crainte de Dieu, quand Dieu lui demande « Où est ton frère ?» qu'il vient juste d'assassiner, il lui répond « Je ne sais pas ». Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il répond? Il ne sait pas, suis-je le gardien de mon frère? En plus, voyez. Alors, verset 8. « Et Caïn parla à Abel, son frère. Et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Et il répondit, « Je ne sais. » Suis-je le gardien de mon frère ? Vous savez, c'est pas bon ça, quand on commence à dire « moi j'en ai rien à faire des autres ». Ça, c'est pas bon du tout. Si vous parlez comme ça, c'est pas sur une bonne voie. Je crois que dans l'Église, on peut pas prendre soin de tout le monde, mais quand même, c'est bien de prendre soin les uns des autres. Oui ou non ? Vous faites partie de ces gens qui disent « les autres, ça m'est égal ». Moi, je prie chez moi, j'en ai rien à cirer, j'ai pas besoin de prier à l'église. C'est bien de prier seul chez soi. Mais je peux vous dire que la maison de prière, c'est une bénédiction. Croyez-moi. Et quand on commence à avoir ces propos, c'est la preuve qu'on ne connaît pas Dieu. Quand on a le culot, excusez-moi l'expression, de répondre ça, de parler comme ça à Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont le toupet de dire « Oui, Dieu n'a pas fait ce que j'ai demandé, alors moi c'est plus fini, je ne veux plus à l'église. » Mais c'est la preuve qu'ils ne le connaissent pas, comme si Dieu était à notre service. J'ai écrit quand même dans le livre de Job que Dieu n'est le débiteur de personne. Alors, il lui parle, vous avez vu comment il lui parle ? Je ne sais pas. Il ment à Dieu. Ça vous montre comment il avait compris la souveraineté de Dieu. Vous croyez-vous que Dieu sait tout, que Dieu voit tout ? Vous le croyez ou... Eh ouais, ça nous dépasse tout ça, mais ce n'est pas grave. Il s'imagine qu'il pouvait cacher quelque chose à Dieu, je ne sais pas. Donc c'est la preuve que Caïn, alors c'est pas expliqué, mais c'est la preuve qu'il ne le connaît pas. Alors le plus grave, c'est qu'il commence à traiter Dieu comme un être humain, c'est la preuve que lui aussi s'est fait une image de Dieu. Et dans les derniers temps, c'est un piège ça. Alors, je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu exagéré, mais que je pense. Je ne suis pas sûr d'exagérer, je le dis par souci. On va lire un texte d'abord, dans Romains. Dans Romains, au chapitre 1er, Paul présente quelque chose qui se passera de plus en plus. Alors, j'ai beaucoup réfléchi avant de vous dire ça, mais je pense que... parce qu'il y a des fois, il y a des convictions qui sont fortes, vous comprenez ? C'est limite après avec l'interprétation. Alors, vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, Romains chapitre 1, versets 21 à 23. Romains 1, 21 à 23. Alors... Parce que tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qui lui appartient, ils ne lui ont point rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous. Regardez bien la suite. Et ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en des images qui représentent l'homme corruptible. On arrête là, on ne va pas commencer avec les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles qui indiquent que le niveau descend de plus en plus bas. Vous avez vu ? Bon, ça c'est un autre sujet. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à une image corruptible. Ils ont changé la gloire du Dieu d'Israël à un veau d'or. Vous êtes d'accord ? Ils en sont fait une image. Je vais vous dire quelque chose que je pense très fort. Et je suis convaincu que j'ai raison parce que, par exemple, M. Olé m'a dit, vous ne connaissez pas le grec, mais souvent vous avez la pensée qui correspond. Quand on appelle Dieu papa, laissez-moi vous dire qu'on a commencé à changer l'image, le Dieu corruptible en Dieu incorruptible en Dieu corruptible. Alors, je le pense, déjà c'est un grand honneur qu'on puisse appeler Dieu Père éternel. Moi, je trouve que c'est... Moi, franchement, quand j'entends quelqu'un qui dit Père éternel, moi, je trouve que c'est une immense faveur de pouvoir appeler le Créateur du ciel Père éternel. Mais de là à passer de père à papa, laissez-moi vous dire qu'on commence à changer de niveau. C'est ma pensée, vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la croire, mais je suis convaincu que quand on commence comme ça, on enlève à Dieu sa grandeur, sa souveraineté, et on fait de Dieu un être humain.
Papa du ciel.
Non, mais c'est... Moi, franchement, je vous le dis, il y a des gens de l'Église qui sont partis parce que j'ai dit des choses comme ça. Mais moi, je n'ai pas envie que le niveau y baisse. Béni soit Dieu, qu'on puisse l'appeler Père éternel. Mais s'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne changeons pas cette chose. Moi, je le crois vraiment. Voilà. Caïn s'est imaginé qu'il pouvait cacher des choses à Dieu. Il lui parle comme un être humain. Il s'est fait une image de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans la fin des temps. Les gens parlent à Dieu. On le voit dans les églises. On voit qu'il y a des gens, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut analyser toutes les prières. Mais quand on voit comment certaines personnes parlent à Dieu, laissez-moi vous dire qu'on a l'impression qu'ils parlent à un copain. Moi, j'étais dernièrement dans une église en vacances. J'ai failli me lever. J'ai rien dit. Il y avait une dame à côté de moi. Seigneur, tu vois, tu es mon copain. Tu es gentil, Seigneur. Tu es mon copain. J'avais envie de me lever, vous voyez. Et tu dis, écoutez, vous ne connaissez pas le même Seigneur que moi. Vous vous rendez compte, et les gens qui rentrent dans l'église, ils entendent ça. Ils nous prennent pour qui, franchement? Vous ne trouvez pas que c'est un peu léger? Non? Ça ne vous choque pas, ça? Il n'y a personne qui est choqué par des choses pareilles. C'est grave, mes frères et sœurs. Oui, la crainte de l'Éternel, le manque de crainte, enlève la perte du bon sens. Quand on voit comment Caïn parle à Dieu, on voit qu'il en a perdu son bon sens. Et quand on voit aujourd'hui comment on parle à Dieu, c'est bien la preuve. Dans Ézéchiel, on le voit, ça va loin cette histoire, quand le Seigneur n'agit pas, parce que des fois, le Seigneur nous fait attendre aussi. Et ce n'est pas parce qu'on attend qu'il faut râler, qu'il faut bouder. Regardez dans Ézéchiel au chapitre 9. Ézéchiel, chapitre 9. Regardez ce qu'il disait. Alors, quand on le lit, on n'y fait pas attention, mais quand on met tous ces textes les uns à côté des autres, comme on est en train de le faire, ça devient beaucoup plus clair. Mais c'est pour ça qu'on a dit, on prie pour avoir des pasteurs. Vous voyez, Ézéchiel, chapitre 9, verset 9. Vous voyez le raisonnement des croyants. Alors, il faudrait lire tout le contexte, mais ça serait intéressant d'ailleurs. Alors, on va lire que ce qui nous intéresse, parce que le retour, il me dit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, extrêmement grande. Le pays est rempli de sang et la ville pleine d'injustice, car ils disent, regardez bien ce qu'ils disaient, les croyants, « L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. » Vous vous rendez compte? Quand on en arrive à croire que Dieu ne voit pas, c'est qu'on on a fait de Dieu un homme, un être humain. Et il ne faut pas s'étonner que les choses dégénèrent. Alors c'est vrai que nous, en plus, on avertit qu'à la fin des temps, il y aura une apostasie terrible qui va venir. Mais un chrétien, ce que Dieu dit, le prend au sérieux. Quand Jésus dit « il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, rien de secret qui ne doit être connu », tout sera révélé. Vous le croyez que tout sera révélé? Dieu sait tout. Alors on ne va pas prendre les textes, les yeux de l'Éternel sont dans tout lieu, etc. Dieu sait tout. J'ai des textes qui me viennent à l'esprit, on ne va pas les lire. Vous pouvez les trouver, mais croyez-moi vous dire, quand on est capable de chanter des cantiques que Dieu est tout puissant et qu'on n'obéit pas, on ressemble à ces gens qui ont été délivrés de l'Égypte et qui cherchent à se faire un veau d'or, c'est-à-dire un Dieu à leur image. Je crois en Dieu, mais je fais ce qu'il me plaît. Vous rappelez Ozias, quand il a perdu la crainte de l'Éternel? Vous rappelez? J'en ai parlé à la réunion des anciens l'autre fois. Il est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas éloigné de l'église. Il est rentré dans le temple et il a offert des parfums, ce qui ne lui était pas demandé. Et quand les sacrificateurs sont rentrés, qu'il dit, mais Ozias, il ne t'est pas permis, ce n'est pas réservé au roi, c'est réservé aux sacrificateurs. Qu'est-ce qu'il a fait, Ozias? Comment il a réagi? Il s'est mis en colère. Il aurait pu, pardon. Est-ce qu'il aurait pu demander pardon? Est-ce qu'il aurait pu déposer son encensoir et se mettre à genoux, dire « Je demande pardon, Seigneur. » Là, les pasteurs, ils m'ont éclairé. Est-ce que Dieu l'aurait pardonné? Vous êtes sûr? Ben oui. Il s'est irrité. Il s'est mis en colère. Et la lèpre a éclaté. Au front. Parce pourquoi on la voit? Parce que des fois, ça ne se voit pas, le péché, mais des fois, ça se voit. Quand Dieu a parlé à Caïn, qu'est-ce qu'il a fait, Alain? À Caïn? Il s'est mis en colère aussi, il s'est irrité. Vous savez, quand on nous dit la vérité et qu'on s'irrite, c'est pas bon. Quand on nous dit la vérité, on devrait dire, vous avez raison, je vais me tenir à carreau, je vais obéir. Et c'est là qu'on reconnaît les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Si on vous dit, si ça vient de Dieu, ça ne vaut pas la peine quand même de se taire et de dire, aidez-moi. On ne peut pas demander de l'aide. Oui, je me suis trompé, aidez-moi. Vous croyez que ça plaît à Dieu, cette attitude? Ben ouais. Ça peut arriver à tout le monde. Ne jouons pas les malins, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ne jouons pas les cacous. Soyons sérieux. Aidez-moi. Je me suis trompé. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça s'appelait au Seigneur. Quand Jésus a regardé un certain Pierre qui venait, qui avait dit devant tout le monde, les autres ils te renieront, c'est clair, parce qu'eux, ils ne sont pas bons, mais moi je ne te renierai jamais. En fin de compte, c'est le seul qui l'a renié. On n'en parle pas, mais les autres ne l'ont pas renié. Ils l'ont abandonné, mais ils ne l'ont pas renié. Bon, vous allez me dire, je joue sur les mots. Mais Le regard de Jésus a suffi à amener Pierre. Voyez un regard. Vous croyez que Pierre a dû le regarder en disant « Tu vois, je te l'avais bien dit ?» Non, je crois pas que. Je crois que le regard du Seigneur était plein d'amour. Et ça l'a amené à la repentance. Et c'est vrai qu'il faut, il faut que nous développions la crainte de l'Éternel, mais il faut que nous nous aidions. Et si vous réagissez mal, acceptez qu'on vous dise « Mais pourquoi tu réagis mal ?» Moi, souvent, je vais vous dire, 9 fois sur 10, en tant que pasteur, même ici dans l'église, 8 fois sur 10, quand j'ai repris quelqu'un, il s'en va. Il y en a 2 sur 10 qui disent oh, « Merci, 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 vous avez raison. » Peut-être pas de suite, mais le lendemain, quand la boule est passée, vous savez. Parce que des fois, vous savez ce que c'est la boule au ventre ? Est-ce que c'est normal ? Sur le moment, on peut un petit peu mal réagir. Mais le lendemain, qu'est-ce que ça coûte ? Vous avez raison, je m'excuse. C'est ça l'honnêteté. Et ça, je peux vous dire que ça plaît à Dieu. Alors, on parle de l'aveuglement d'Ozias, l'aveuglement de Caïn, et il faut réclamer ses vertus. Alors, on va terminer parce que je vois que l'heure. On pourrait relire Proverbe 2 pour terminer, si vous voulez bien. Non, je vais quand même lire, je vais lire 2 textes avec vous avant de relire Proverbe 2. Regardez le culte, parce que je l'ai à cœur, oui, je veux le faire. Il y a des centaines de textes sur la crainte, dans Hébreux chapitre 12. Je pense que c'est bien. Vous me donnez 2 minutes de plus ? Notez-les ces textes, parce que c'est impossible de tout retenir, absolument impossible. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, il nous est demandé certaines choses pour offrir le culte au Seigneur. Hébreux, chapitre 12, verset 28. Comment vous offrez votre culte à Dieu ? Alors, vous y êtes ? Hébreux 12, verset 28. Ainsi, puisque nous avons en partage un royaume inébranlable, conservons la grâce, afin de servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Alors commencez cette manière avec respect et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu consumant ou dévorant. Vous voyez, ça commence avec l'amour, mais Dieu est aussi saint. D'accord ? Donc on doit offrir à Dieu un culte avec respect et crainte. Le culte, ce n'est pas que la réunion du dimanche matin, c'est toute notre vie, la façon dont on sert le Seigneur. Mais à combien plus forte raison, nos cultes devraient être remplis de respect, oui ou non ? Vous savez, moi je ne suis pas un donneur de leçons. Je dis ce que j'ai à dire, mais je n'utilise pas la chair pour régler les comptes. Mais quand je vois des gens qui arrivent à l'église à 10h, 10h15, 10h30, moi je trouve que c'est un manque de respect. Oui ou non ? Après, bien sûr, si vous êtes en train d'aider quelqu'un qui a crevé sur la route, une mémé qui arrive... Mais vous avez raison. Là, si vous arrivez à 10h30, mais quand même, ça m'étonnerait que pendant 10 ans, vous tombiez chaque dimanche matin sur une mémé qui a crevé dans la rue. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, mais... J'ai pas pu. Je travaillais... Vous travaillez le matin ? Non, samedi après-midi. Ah, d'accord. Franchement, il faudrait mieux rien dire. Je crois quand même que ça plaît à Dieu quand ce qu'on fait, on le fait avec respect. Et crainte. Tout ce qu'on fait, j'apporte mon offrande, je le fais. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction d'apporter son offrande au Seigneur ? Je ne sais pas, moi, on le fait avec cœur, c'est important, ça devient l'argent de l'Église, c'est l'argent du Seigneur. Moi, je ne sais pas. Tout ça, ça doit être fait avec respect et avec crainte. Même la joie. Regardez, c'est dans le psaume 2. J'ai pris volontairement le psaume 2 parce que vous aimez le livre des psaumes ? Vous aimez le livre des psaumes ? Vous ne répondez pas beaucoup. Dans le psaume 2, je ne sais pas si ce sont des versets sur lesquels vous vous arrêtez. Moi, oui, je vous avoue que je m'y arrête, parce que j'ai de la peine de voir tant de chrétiens qui n'ont pas la crainte. Alors, regardez dans le psaume 2. C'est des textes qui m'ont beaucoup fait réfléchir, et certainement amené à méditer ces sujets. Dans le psaume 2, qu'est-ce qu'il est dit ? Alors, verset 11. Je ne sais pas si... Vous me direz à la sortie si vous aviez déjà fait attention à ce verset, qui doit faire partie... des textes que vous lisez souvent. Oui ou non ? Eh oui. Alors, psaume 2, verset 11. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Alors, est-ce que vous aviez déjà fait attention à ce verset ? Oui ? Et répondez-moi, oui à la tête, oui, non ? Non ? Non ? Vous voyez ? Pourtant, on lit les psaumes. Mais c'est la preuve qu'on ne prend pas le temps... qu'on médite pas. Alors, c'est pas forcément méchant, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à lire, mais ça vaut la peine, des fois, de passer. Moi, je le fais. Pendant une semaine, je lis un texte. Pendant une semaine, tous les jours, ou tout le mois, je le dis, c'est pour vous aider, c'est pas pour mettre en avant. Tous les mois, par exemple, je vais lire l'Apocalypse, en entier, tous les jours. Le mois d'après, je vais lire le livre des Proverbes, tous les jours, tous les mois. Et je peux vous dire qu'à force, j'avais pas fait attention à ce verset. Vous voyez quand même, réjouissez-vous avec tremblement. Dieu aime qu'on ait de la joie. Et puis moi, je crois que s'il y en a bien qui doivent avoir de la joie, comme je le disais dimanche, c'est bien les chrétiens. Franchement, qui c'est les gens les plus heureux du monde aujourd'hui? Pour moi, c'est les chrétiens. Je suis honnête, mais ce n'est pas du tout de la fanfaronnade. Moi, je pense que sans l'espérance, la paix, on ne peut pas avoir la joie. Mais même la joie, vous voyez, qu'on doit exprimer, ça ne doit pas être une joie excitée, ça doit être... Après, il y a des joies, des joies qui s'expriment. Mais dans le royaume de Dieu, les choses joyeuses doivent être aussi sérieuses. On peut être très joyeux et très sérieux en même temps. Vous voyez? Et tout le temps, cette notion de crainte. Alors, les vertus, alors dans le proverbe, après, on termine quand même, parce que ce sont des vertus que l'on peut tous développer. Tous. Le livre des proverbes, c'est un merveilleux livre, le livre des proverbes. Proverbe chapitre 2. Ouais. Je vous dis, priez en fonction des verbes. C'est écrit si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qui est écrit? Qu'il la demande? Comment? À Dieu qui donne simplement et sans reproche. C'est pas beau ça? Vous trouvez pas que c'est merveilleux? Dieu qui donne simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Donc c'est pareil, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu conserves avec toi mes commandements, si tu prêtes l'oreille à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la prudence, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches soigneusement comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Je l'ai dit dernièrement, on vous dirait que dans le jardin de votre terrain, dans votre jardin, il y a un coffre avec 20 millions d'euros dedans. Voilà, je vous le dis. Chez vous, à un mètre de profondeur, 1,20 m, il y a un coffre avec 20 millions d'euros dedans. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, oh, 20 millions, qu'est-ce que vous faites? Moi, demain, je vais à Kiloutou, je loue un tractopelle, même si je ne sais pas manger, et je défonce toute la maison. 20 millions, ça ne vaut pas le coup? Est-ce que vous le feriez? Non, bon, je sais que vous avez de l'argent. Bon, il y a 150 millions. Sérieusement, vous ne le feriez pas faire? Ah, moi, j'appelle de suite. Écoutez, venez avec votre petit bon, 4, là, vous savez, les petits. Et j'ai un truc à trouver. Si on vous dit, c'est sûr, il y est. Mais mes frères et sœurs, c'est l'image que Dieu donne. Ça vous fait rire. C'est volontaire. Mais mes frères et sœurs, si on avait la même attitude de cœur, je vais chercher comme un trésor. Je veux comprendre. Tiens. Je vais prendre une concordance, je vais voir dans la Bible tous les hommes qui se sont mis en colère, tous les hommes qui se sont irrités. Pourquoi ils l'ont fait? C'est ça, chercher. Ceux qui ont bien réagi. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait comme ça? L'autre jour, vous voyez, j'ai prêché sur Balaam, qui a mal réagi, et je me suis dit, tiens, comment il est mort? Est-ce que vous savez comment il est mort, Balaam? Tué par
l'ennemi.
Enfin, il était dans le camp ennemi, et il s'est peuple d'Israël là-dessus. Ouais, il est mort chez les rois qui lui avaient donné. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, ça, ce n'est pas écrit. Parce qu'il était du nord, il était du fleuve, donc de l'Euphrate. Quand on dit, par exemple, j'habite en France dans la ville rose, c'est... Il était du fleuve, donc de l'Euphrate. Et ça s'est passé à Madian, donc ça s'est passé au sud. Et il était chez les rois quand Israël a attaqué les ennemis. Ça s'est passé, il croyait, lui, il était content. Peut-être que c'était le jour où il allait chercher ses millions d'euros, justement. Et vous avez vu comment il a fini? Tué par l'épée. Parce que je voulais savoir. Et je vous assure, j'ai lu les nombres jusqu'à ce que je trouve. Je veux savoir. Et quand on cherche, on finit toujours par savoir. Mes frères et sœurs, si nous cherchons la sagesse, nous découvrirons la crainte de Dieu. Alléluia. Et je pense que dans cette génération perdue, où la majorité des églises vont tomber dans l'apostasie, quelle grâce! Sérieusement, vous n'avez pas envie de passer devant le Seigneur et de dire, mais moi, l'apostasie s'installe partout. Moi, j'ai développé la crainte de Dieu. Vous n'avez pas envie de vivre ces choses? Est-ce qu'on peut? Mais bien sûr que c'est la volonté de Dieu. Donc, on poursuivra ce sujet. Moi, c'est un sujet qui me passionne parce que je sais que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il est agréable au Seigneur. Donc, on peut être délivré du monde et ne pas obéir à Dieu. Mais nous, on va s'appliquer à ce sujet. Et vous prierez pour moi. Vous prierez pour moi pour ce sujet? Vous prierez pour moi? Il n'y en a que 8 qui ont fait signe. Oh. On va terminer en demandant au Seigneur qu'il nous aide à développer ses vertus. Demandez-lui, il vous donnera. Il y a des choses, il ne vous les donnera pas parce qu'elles ne sont pas bonnes. Mais croyez-moi, si vous dites, Seigneur, donne-moi ces vertus, il vous les donnera simplement et sans reproche. Parce que le diable, ou les gens, il y a des gens qui sont mauvais. Vous faites quelque chose, ils vont vous le reprocher, presque. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai, ça? Ah, tu sais, j'ai fait des progrès. Je ne pouvais pas courir avant, maintenant, je cours 5 km tous les matins. Ah bon? Que 5 km? C'est une image. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps en train de culpabiliser. Et je crois que nous, on a un Dieu qui nous encourage. Et si tu fais 5 km, eh bien, mon frère, c'est bien. Si dans un mois, tu peux faire 5 km et demi ou 6, c'est bien. Appliquons-nous, mes frères et sœurs. Travaillons à notre salut, avec respect, avec crainte, tremblement. Veillons les uns sur les autres. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, signalons-le, afin qu'on puisse aider la personne. Ça plaît à Dieu quand on veille les uns sur les autres. Le chacun pour soi, que ça ne plaît pas au Seigneur. Prions, mes frères et sœurs, simplement. Notre Père, notre Dieu, oui, nous demandons ton aide. Nous demandons ton secours pour développer toutes ces vertus. Et comme nous chercherions, c'est vrai, Seigneur, comme nous chercherions un trésor dans le jardin, parce que nous savons qu'il y est, nous voulons poursuivre, chercher la crainte de l'Éternel, afin de te connaître vraiment. Parce que nous voulons que le jour où on va passer devant toi, Seigneur Jésus, que ça se passe le mieux possible. Parce que nous aspirons à ce moment où nous te verrons et nous voulons que nos vies sur la terre aient pu te glorifier. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.